au réseau Cogeco. Mario Langlois rencontre.
Grand plaisir et un honneur pour moi de recevoir à titre de premier invité de cette nouvelle série d'entrevues qu'on vous propose dorénavant au réseau Cogeco et au 98.5 FM, les grandes entrevues avec Mario Langlois. Il a été de la dernière édition du Canadien de Montréal à remporter la Coupe Stanley. Je suis convaincu qu'en 93, si je lui avais demandé, pense que ça va prendre 25 ans à gagner une autre à Montréal, il m'aurait dit non, je peux pas croire ça. Guy Carbonneau qui est avec nous ce soir. Salut Guy.
Salut.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Ça fait plaisir.
C'est un honneur de te recevoir. Merci. Et tu sais que la dernière fois qu'on s'est parlé, le lendemain, tu t'es retrouvé sur la front page, hein? T'en souviens-tu?
Non.
Le mur.
Oh, le fameux mur. Oui, yeah, c'est vrai, ben oui.
Mais tu sais que des frontispices, t'en as fait dans ta vie. Hein?
C'est ça. J'ai exagéré un peu cette fois-là. Le mur aurait dû rester un petit peu plus beau.
Ouais.
Mais j'avais dit un grand mur.
Oh oui, tu te sens ta lousse. Mais ça me faisait réfléchir au fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui se retrouve à la suite de déclarations en frontispice. Puis toi, là, dans ta carrière, as-tu déjà calculé le nombre de fois que tu t'es retrouvé en
non.
une?
Non.
Pour vrai, ça, je pense que j'ai pas assez de doigts pour les compter.
La majorité des fois, ça a été pour les bonnes raisons. Je te dirais que peut-être à quelques occasions, ça a été celle-là avec le doigt d'honneur. Ça a été certainement la pire, une des pires en tout cas. Je me rappelle une autre fois, je crois que j'étais capitaine dans ce temps-là. On venait de revenir de l'Europe. Et je pense qu'il y avait une jeune demoiselle qui était morte du sida. Et puis, il y avait eu des liens, là, je pense, où on avait parlé.
Insinué.
Ouais, insinué des choses. Puis, c'était moi qui avais été dans le. Parce que c'est moi. Parce que l'organisation avait. Oui, c'est ça. L'organisation avait décidé que c'était moi qui allais parler aux journalistes. Puis, c'était comme. J'avais je pense que j'avais mes deux filles dans mes bras, ou une de mes deux filles dans mes bras, puis c'était comme papa à Tucida. Non, c'était pas vraiment c'était pas une belle chose, mais écoute, c'est des choses qui arrivent lorsque tu joues au hockey pour le Canadien de Montréal.
Quand tu te retrouves, là, je sais pas si t'as ton journal à la porte ou tu vas sur le web comme bien du monde font aujourd'hui,
sur le web.
Que tu constates que, oh boy, tu sais, je sais que j'ai dit ça, mais je savais pas que ça allait prendre cette dimension-là comme le mur ou le doigt d'honneur. Ouais. Tu sais, le doigt d'honneur, tu te réveilles le matin, puis il y a bien des gens qui nous écoutent qui se souviennent même pas de quoi on parle. Il y a bien des jeunes qui ont pas vu le Canadien gagner la Coupe en 93, mais c'était quoi le feeling quand tu dis, oh boy?
Ben, c'est toujours frustrant parce que, écoute, j'ai fait des bonnes choses dans ma vie, dans ma carrière. Il y a des choses que je suis moins fier, ça, c'est sûr et certain. Mais ce doigt-là, c'était, tu sais, j'ai pas aimé l'histoire. La photo me dérangeait moins. C'est pas le fun, hein. C'est un geste qui était.
Pour les plus jeunes, t'es sur un terrain de golf.
C'était à 250 verges du verre, puis ça fait 4-5 fois que un réseau de télévision veut faire une entrevue à propos justement de la défaite contre les Bruins de Boston. Et on est tous, mais Patrick Roy avait Vincent Danfousse, puis il n'y a personne qui voulait faire d'entrevue. On était sur un terrain privé, puis on pensait qu'il envahissait notre endroit. Puis on s'en est parlé pendant quelques occasions. Ils sont revenus à 3-4 occasions pour justement essayer de faire l'entrevue. Puis la réponse était toujours non. Et lorsqu'on est arrivé au 18e trou, à 250 verges, là, on voyait quelqu'un sur le bord du verre, sur le côté. On était très loin, qui avait l'air d'une caméra. Puis en marchant, parce que dans ce temps-là, le terrain était très, très démouillé, puis on marchait un à côté de l'autre, puis là, j'ai dit, croyez-vous qu'il est encore là, lui? J'ai dit, va-t'en, on ne parlera pas plus. Puis c'est là que j'ai fait le geste. Puis le soir, on a eu une sortie d'équipe. J'allais me coucher, puis le lendemain matin, c'est mon épouse qui m'a tiré, le journal dans le visage en voulant dire qu'est-ce que t'as fait hier, tu sais. Mais j'avais pas, parce qu'on savait pas qu'il avait pris cette photo-là. Alors, non, c'était une leçon. Ce que j'avais pas aimé, par exemple, c'est, puis ça, j'avais averti le journal, c'est l'article qui avait été écrit à côté de la photo. Que j'avais fait le geste contre le photographe ou le gars de la caméra, c'est une chose. Mais c'était pas
envers le public.
Envers le public, puis c'est ça que l'article insinuait. Alors, pour moi, c'est deux choses. C'est, on sait qu'on va être dans l'œil du public. Des fois, tu dis quelque chose comme le mur. Moi, quelque chose que j'avais aperçu au fil des années. Puis j'ai eu des conversations avec Jeff après ça, avec Régent Hall après ça, avec des gens de l'organisation après ça. C'était pas pour bâcher le métier, je veux dire, il y a des sentiments des fois que tu as. Puis, alors, tu sais, je veux dire, comme je dis, il y a eu des bons moments, il y a eu des bons côtés dans les 13 ans que j'ai été avec le Canadien, plus encore, je suis encore ici aujourd'hui, ça que, et plus, là.
Ben oui.
Mais c'est certain qu'il y a des fois des choses qui sont dites, qui sont écrites, qui sont photographiées, que tu aimes moins.
On revisite ta carrière, je ne vais pas nécessairement de façon chronologique, mais puisqu'on a commencé par les frontispices et tout ça, mm-hmm. pour les gens qui s'en souviennent plus ou moins, ça avait causé toute une controverse. As-tu l'impression que ça avait contribué à te sortir de Montréal? Parce que c'est arrivé pas bien longtemps après ça, ou c'était tes négociations à l'époque de contrat avec Serge?
Oui, on avait une négociation qui était même assez difficile avec Serge. J'avais connu une saison difficile. On avait gagné la Coupe Stanley, on venait de gagner la Coupe Stanley l'année d'avant. L'année d'après, j'avais un problème à un genou qui m'avait fait manquer plusieurs matchs durant la saison. Je pense que j'étais parti de une vingtaine de buts dans l'année d'avant à 4 ou 5, je pense, en 94. Puis, dans ce temps-là, on s'en allait en grève ou en lockout. Moi, j'étais représentant du Canadien, puis j'étais représentant pour l'association des joueurs aussi. Alors,
il y avait pas mal de raisons, finalement.
C'est ça. Fait que, c'est sûr que tout mis ça ensemble... Je pouvais comprendre. J'avais 33 ans dans ce temps-là, 34 ans. Alors, tu sais, dans ces années-là, 34 ans, là, c'était tu commençais à étirer ta carrière. J'étais quand même chanceux. Je pouvais comprendre, même si c'était pas ça que j'avais pas demandé un échange. J'étais capitaine de l'équipe et je venais de me faire construire une maison sur les bizarres. Tu sais, je veux dire, il y avait rien qui me disait que j'allais être échangé. Alors, du jour au lendemain, lorsqu'on m'a appris que j'étais échangé aux Blues de Saint-Louis, ça a été un gros choc. Puis je ne veux pas manquer de respect envers le joueur qui ont échangé mon retour, là, mais c'était...
Jim Montgomery.
C'était plus pour se débarrasser de moi que d'autres choses, je pense. Ouais.
As-tu eu de la peine, de la colère?
Je pense qu'il y a un mélange de ces choses-là qui passent. C'est comme je te dis, on venait de gagner la Coupe Stanley l'année d'avant. Il y a un an avant ça. J'étais capitaine. J'avais quand même connu des bonnes années. Comme je te dis, là, pour moi, la construction de la maison, le fait de déménager, tout était beau, tout était le fun. Puis là, ben, du jour au lendemain, pendant l'été, la journée de du tournoi de golf qu'on avait fait à mon nom, à l'île Bizarre, on m'apprend que j'étais changeable avec les Blues de Saint-Louis. C'était difficile. C'était la première fois pour moi aussi. Je veux dire, lorsque je suis parti de Saint-Louis, m'en aller à Dallas, j'avais déjà l'expérience. Même si, mais c'est jamais quelque chose de facile. Faut que tu trouves un autre endroit. Tu vas changer complètement tes coéquipiers, tes instructeurs. Changent de ville. Tu es obligé de trouver une résidence, déménager, trouver des écoles pour les enfants. Aujourd'hui, les équipes, je pense, sont beaucoup mieux équipées justement pour ces choses-là. Mais reste que c'est un choc pour tout le monde.
Si on considère que le Canadien, pour ceux qui en ont fait partie, est une grande famille, c'est souvent c'est l'image qu'on a souvent de l'extérieur, surtout peut-être du Canadien de ces années-là. Il y en a eu des ruptures, là, des déchirures dans famille, hein, c'est spécial. Et cet épisode-là, as-tu réussi pas à réparer, mais à passer par-dessus tout ça? Parce que, tu sais, Bob Gainey, qui des années plus tard te remercie comme entraîneur, qui t'avait amené au centre de la glace lors du retrait de son chandail, Serge qui, tu sais... As-tu réussi à toujours passer par-dessus ça ou il en reste toujours un petit quelque chose?
Non, je pense qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles tu passes par-dessus. Écoute, je suis rendu à 57 ans, là, ça fait qu'il y a de l'eau qui a passé en dessous du pont, pas mal. Pour ce qui est de l'échange, comme je t'ai dit, au début puis pendant un certain temps, il y a beaucoup de frustration. L'année d'après, lorsque je me suis fait échanger à Dallas, ça a été beaucoup plus facile parce que je retrouvais plusieurs de mes anciens coéquipiers ici à Montréal qu'on avait joué ensemble. On a eu la chance de gagner la Coupe Stanley. Alors,
c'était un baume.
C'est ça, c'est exactement. Ça a été beaucoup plus facile. Mais au fil des ans, tu commences à mettre les morceaux du casse-tête ensemble. Puis le casse-tête est beaucoup plus rempli aujourd'hui. Des raisons, je les ai pas toutes. Personne, des fois, Il n'y a personne qui va s'étaler sur la place publique non plus. Ils n'ont pas besoin de te le dire pourquoi ils t'ont échangé ou complètement congédié. Mais j'apprends à chaque année, à chaque semaine, à chaque. Toutes les conversations que tu fais, des fois, tu rapièces les morceaux. Puis là, ben, tu viens plus à l'aise dans les décisions qui ont été prises.
Ce qui est spécial, c'est que je parle de trois hommes qui ont été capitaines du Canadien. Je viens de faire allusion à Bob.
Ouais. Serge.
Serge, toi capitaine, puis ça prend combien de temps avec Serge aujourd'hui? Peux-tu dire que tu as une relation? Tu veux dire, quand vous parlez, c'est comme si de rien n'était ou...
Oui.
Vraiment?
Je peux dire que oui. Il y a eu des moments où c'était plus difficile. La même chose avec Bob. J'ai été beaucoup plus près de Bob Gainey dans le passé qu'aujourd'hui. Puis une de ces raisons-là, c'est justement le congédiement. J'ai été surpris, déçu, bien des choses. Moi, j'avais une relation avec Bob qui était privilégiée. J'ai eu la chance de jouer avec. On a été roommates pendant longtemps. Il n'y a pas besoin de m'expliquer de A à Z tout ce qui s'est passé, mais je pense, c'est peut-être moi qui ai tort complètement, là, mais je pensais avoir au moins une des raisons. Tu sais, j'aurais aimé mieux qu'ils me disent que je coach mal. Je suis pas bon. Toutes ces choses-là que rien me dire. Alors, tu pars dans le néant. Puis, je veux dire, j'ai eu la chance après, lorsque j'ai été congédié, de parler avec des gars comme Jacques Demers, avec beaucoup d'anciens entraîneurs qui avaient passé par là. Et c'était plus facile après de savoir quoi faire. Mais à ce moment-là, pour moi encore, c'était la première fois. Là, c'est la première fois que quelqu'un me mettait dehors. Là. J'ai été échangé, ça, c'était quelque chose. Là, mais de te faire mettre à la porte là, au mois de janvier ou février, alors que tu viens d'aller au match des étoiles, alors qu'on vient de dire il y a deux semaines que c'était une des bonnes raisons pour que j'ai choisi cet instructeur-là. Ça fait qu'il y avait des choses, beaucoup de choses qui étaient que j'avais pas compris, que je comprends pas encore des fois. Mais aujourd'hui, c'est du passé.
Est-ce que c'est la décision ou l'événement professionnel le plus dur de ta carrière? Plus dur que les charges?
Définitivement, oui. Oui. Oui, parce que, je veux dire, même si je ne m'attendais pas à me faire échanger, c'était pendant l'été. Je veux dire...
Mais le congédiement, ça t'a fait plus mal que d'être échangé? C'est ça que tu me dis,
oui? Oui. Oui, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile. Je ne sais pas si c'est
parce que ça venait de
le
Bob.
Moment. Ben, je ne sais pas si c'est.
C'est à la vie à la mort, là, c'est presque ton frère ou ton grand frère.
Je peux pas dire si c'est parce que c'était Bob. Là. Je veux dire, comme je t'ai dit, c'était la première fois que je me faisais mettre à la porte, puis ça a été la seule fois. j'ai pas l'expérience de d'autres choses. J'ose croire que. Je regarde Michel Therrien, je regarde Claude Julien qui a été mis à la porte à plusieurs occasions dans leur carrière, dans leur grande carrière. J'ose croire que ça devait être aussi difficile d'une fois à l'autre. Pour moi, ça a été quelque chose, probablement de la chose la plus difficile que j'ai eue à passer à travers.
Puis, t'as pas eu l'occasion de rediriger depuis dans la Ligue nationale. Fait que ça s'est arrêté là. Est-ce que c'est fini dans ta tête?
Ben écoute, ça fait quand même assez longtemps. Ouais, ouais, c'est ouais. Sûr, certain que c'était difficile. Moi, il me restait quelques années à mon contrat lorsque c'est arrivé. J'ai pas eu la chance. Je pense que j'ai pas eu l'occasion d'aller ailleurs. J'étais très bien payé, ça, je m'en plains pas. J'ai eu une fois où il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire « Reste pas proche de ton téléphone, il y a quelqu'un qui veut te parler. » C'est pas arrivé. Alors, la raison pour laquelle c'est pas arrivé, je le sais pas. J'en doute, mais écoute, plus les temps passent, écoute, la Ligue maintenant, tu vois, on le voit, là, il y a certains instructeurs qui vont d'une équipe à l'autre. Ensuite de ça, mais c'est des nouveaux coachs qui arrivent avec de nouvelles idées. Le hockey évolue extrêmement rapidement. Alors, beaucoup d'équipes maintenant vont regarder ce que les coachs, les instructeurs font dans le niveau junior, au niveau de la Ligue américaine, puis voir s'ils sont capables justement d'amener ces gens-là de leur équipe.
Guy Carbonneau est notre invité aujourd'hui aux grandes entrevues. On revient, si tu me le permets, Guy, après la pause que voici.
Pas de problème.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois, rencontre.
Nous sommes de retour avec notre invité aujourd'hui, nul autre que l'ex-capitaine entraîneur des Canadiens, Guy Carbonneau. Chance que t'as pas été gardien de but, Carbo, parce que je pourrais te demander, ouais. C'est quoi la job qui est la plus exigeante à Montréal? Gardien, coach ou capitaine du Canadien de Montréal? Trois postes vraiment qui sont toujours sous les réflecteurs. Hein? T'en as occupé deux des trois, évidemment.
Celle d'instructeur est extrêmement demandant. C'est sûr et certain que, tu sais, moi, je l'ai toujours dit, en tant que joueur, c'est la job la plus facile. On dit d'arriver à l'aréna à 10 heures, tu sais, à la patinoire à midi. Qu'est-ce que tu as à faire sur la patinoire? Quand sortir? Puis après ça, tu prends ta douche, puis tu es libre de faire ce que tu veux pendant la journée. En tant qu'entraîneur, c'est de longues journées. Tu as à faire avec 23, 24 caractères différents qui veulent tous jouer 25 minutes, qui veulent tous jouer sur l'avantage numérique. Qui veulent tous jouer. Sur 20 cours, 24, il y en a seulement 20 qui peuvent jouer, dont deux gardiens. Alors, puis eux aussi, ces joueurs-là ont des problèmes, que ce soit au niveau de la famille, de la maladie, des blessures, des choses comme ça. Alors, c'est jamais, jamais, jamais facile. Faut-tu préparer la pratique, faut-tu préparer les voyages.
Rencontre les médias.
Rencontre les médias en anglais, en français. Tout le monde dit... Montréal, c'est pas facile. C'est pas pire qu'ailleurs. C'est juste qu'ici, on a deux langues. Ce que les autres équipes n'ont pas. Alors, tu sais, si tu rencontres les journalistes, c'est deux fois plus grand parce que tu as le français et l'anglais. Tu as la radio, la télévision, les papiers, ce que toutes les autres équipes ont. C'est sûr et certain que lorsque tu vas à Nashville, on parlait, lorsque Nashville est arrivé, il y avait un ou deux journalistes. Je suis pas sûr qu'il y en a juste un ou deux aujourd'hui parce que c'est une équipe qui fonctionne bien. C'est une équipe qui est en vue maintenant du public. Je suis pas mal sûr qu'il y a plus que deux journalistes qui sont à Nashville.
Est-ce que ça serait plus simple, comme ton ancien joueur et notre ancien joueur vedette, Kovalev, le suggérait de pas accorder tant d'importance à la langue puis d'avoir un coach, une langue anglophone?
J'ai de la difficulté avec ça. Moi, je pense qu'on serait capable d'engager un unilingue. Qui parle seulement que l'anglais, mais il n'y a aucun doute dans mon esprit que la personne devrait faire un effort pour parler français. Ça c'est, il n'y a aucun doute. Il se doit d'essayer d'apprendre le français. Il n'est pas obligé d'être bilingue. Il n'a pas besoin d'être capable d'étaler sa vie sur la vie à la radio ou à la télévision, mais je pense qu'il se doit de faire un effort pour essayer justement de répondre à certaines questions.
Tu étais là quand Guy a pris sa retraite?
Oui.
Ça devait être de l'intérieur, là, ça devait être tout un... Après 19 matchs, Guy, pouf, c'est fini. Je veux dire, les joueurs, là, c'était quoi vivre ça de l'intérieur? Moi, je me rappelle où j'étais exactement. J'étais à Jonquière, dans ma chambre, dans le sous-sol que je jouais. Puis, tu sais, c'était un moment marquant, là. Mais vous autres, de l'intérieur, de voir ça, c'est Guy Lafleur qui dit « j'arrête ».
Mais c'était pas facile. C'était pas une décision qu'il a pris à la légère. On connaît tous que Guy Lafleur a été pour le Canadien de Montréal. Qu'est-ce que Guy Lafleur, qui il est? C'est un gars qui est extrêmement droit, qui n'a jamais reculé devant rien, mais quand il prend une décision, c'était assez ferme. Il n'aimait pas les conditions dans lesquelles il était. Alors, il a décidé que c'était assez.
Tu sentais de souvenir comme joueur?
Ben, je pense que oui. Là, je veux dire,
que ça allait aller jusque-là?
Tu sais, je veux dire, on arrive tous à un certain moment donné, on pense qu'on est invincible, on pense qu'on est plus bon qu'on l'est. Tu veux dire, quand tu as 22, 23 ans, tu es invincible, là, mais quand tu arrives dans la trentaine, on le voit souvent. Tu sais, je regarde, il y a Romy Jagger. Il était rendu à 46 et il veut continuer à jouer. À un moment donné, je m'excuse. Tu sais, si tu n'es plus capable, tu n'es plus capable. Je sais que c'était un grand joueur, puis c'était le cas pendant de plusieurs. Tu sais, même moi, à la fin de ma carrière, est-ce que j'aurais été capable de jouer dans une
équipe.
Dans l'équipe aujourd'hui, dans le style de jeu que c'est aujourd'hui? Peut-être pas, parce que c'est tellement rapide aujourd'hui. Même si j'étais un gars qui était en bonne forme et un bon patineur, les temps ont changé. Alors, il y a un certain moment donné où faut que tu raccroches. Puis je pense que Guy arrivait dans ces années-là.
D'être témoin du fait que deux coéquipiers de ligne... Le courant passait pas. Maintenant que Jacques est devenu entraîneur, Guy, lui, c'est ce que ça vous affectait?
Ben, c'est sûr et certain que c'est jamais plaisant. Mais à la fin de la journée, on avait un travail, on a tous un travail à faire. C'est-à-dire, on est payé pour jouer au hockey puis faire aider l'équipe à gagner des matchs. Moi, je pense que tu sais, Jacques était quelqu'un de très, très, très structuré. Probablement, pour moi, en tout cas pour moi, Guy Carbonneau, c'était un des probablement les meilleurs coachs que j'ai eus. Parce qu'il n'y avait pas de zone grise avec Jacques Lemaire. C'était blanc ou noir. Tout était bien expliqué. Lorsque tu arrivais sur la patinoire, tu savais exactement où t'en allais. Puis ça a apparu dans les années qu'il a coaché. Ses équipes étaient très, très bien préparées. On a gagné la Coupe Stanley avec des équipes de même. On avait de très bons systèmes. Il n'a jamais gagné la Coupe Stanley comme instructeur ici avec le Canadien, là, mais dans les années qu'il était ici, on était extrêmement structuré.
Il a préparé le terrain un peu quand même.
Exactement. On parlait de la trappe. Là. Je dirais pas qu'il l'a créé, mais il l'a amélioré. Puis la raison pour laquelle on avait beaucoup de succès à jouer justement dans ce style-là, c'est que lorsque les joueurs arrivaient sur la patinoire, comme je l'ai dit tantôt, tout le monde savait où aller, quand y aller, puis quoi faire sur la patinoire. Aujourd'hui, je suis pas certain. Même si on a beaucoup de on a les vidéos, on a des vidéos sur le banc maintenant, mais on pratique plus. Les pratiques sur la patinoire sont beaucoup moins longues. Beaucoup moins, je dirais pas intense, là, mais moins fréquente. Puis c'est certain que je suis pas certain que les joueurs, je dirais pas écoutent, là, mais veulent jouer dans certains systèmes.
Parce qu'on est témoin de ça cette année?
C'est peut-être. Tu veux dire, aujourd'hui, tout le monde, comme je l'ai dit, j'en ai parlé tout à l'heure, tu sais, tout le monde est capable de voir qu'est-ce que son chum, avec qui il a joué dans le junior ou dans au collège, où est-ce qu'il est rendu, combien il joue de minutes, combien est-ce qu'il a eu de mise en échec, combien est-ce qu'il a eu de tir, combien d'argent il fait. Alors, tu sais, je veux dire, tout le monde se compare avec tout le monde. Mm-hmm. Ça, c'est difficile pour un instructeur, pour une équipe.
Guy Carbonneau est notre invité aujourd'hui aux grandes entrevues. On vient d'effleurer le sujet Coupe Stanley et au retour de la pause, je veux justement parler de la première que tu as remportée comme joueur en 1986 et bien sûr de la dernière qu'on a savourée ici à Montréal en 1993.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois Rencontre.
On est de retour avec notre invité aujourd'hui, Guy Carbonneau. Les gens t'appellent Carbo ou Guy quand t'es croisé à l'épicerie,
Carbo. Plus souvent Carbo.
Oui. Les gens se sentent hein, comme si tu fais partie de la famille. Hein. C'est ça, être un joueur du Canadien?
Oui. Puis je veux dire, c'est sûr, certain que, tu sais, je comprends aujourd'hui, les joueurs sont beaucoup en demande. Moi, ça fait quand même 17 ans que je suis retiré. Je demeure à le même endroit. Ça fait presque 30 ans maintenant à l'île bizarre. Fait que je suis habitué d'aller au marché, au Starbucks, des choses comme ça. Ça fait que le monde sont habitués de me voir.
1986. Coupe Stanley. Ouais. Quelle place elle occupe dans tes souvenirs, cette Coupe Stanley-là, 1986? C'est ta première.
Ben, écoute, j'ai eu la chance d'en gagner trois. C'est sûr, certain que je suis capable de comparer. Mais c'est sûr que la première, ça demeurera toujours celle qui signifie le plus dans ma carrière. Je veux dire, j'ai commencé à jouer au hockey, j'avais 4-5 ans, patiner dehors, patiner sur la patinoire du voisin, commencé à jouer dans du hockey organisé. Ça allait super bien, tu étais bon, parce que tout le monde à cet âge-là, lorsque tu as la chance, quelqu'un qui va accéder à la Ligue nationale, c'est parce qu'il est bon quelque part. J'étais tout le temps un petit peu meilleur que les joueurs dans la Ligue, puis tu veux dire, tu te mets à rêver des fois. Moi, je viens de cette île, alors le samedi soir, c'était le Canadien. On n'avait pas 8 games de hockey comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est facile, moi, dans mes années-là. Alors, tu sais, le Canadien, ça demeurait mon club. Puis avoir la chance d'être pêché par eux autres, d'avoir la chance de commencer ta carrière avec eux autres, puis gagner ta première Coupe Stanley, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Parce que, comme je disais à tout le monde, je veux dire, l'expérience, c'est sûr, de A à Z, là, c'est il y a beaucoup de choses qui se passent dans les séries éliminatoires que tu n'as pas le temps de voir passer parce qu'il faut que tu te concentres sur le prochain match ou les matchs sont très, très longs. Mais tu sais, le buzzer, là, quand la fin du match arrive et tu sais que tu as gagné, pour moi, en tout cas personnellement, il y a eu beaucoup de choses, il y a beaucoup de films qui sont repassés dans ma tête. Je veux dire, ma famille, ma mère qui venait, ou mon père qui venait me porter le matin à 5h30, 6h à l'aréna pour patiner avant qu'on aille à l'école. Des tempêtes de neige, gratter pendant 20 minutes, patiner pendant 10 minutes, gratter pendant 15 minutes pour enlever la neige, pour patiner encore. T'sais, ces choses-là, les blessures que tu as passées à travers, tous les instructeurs que tu as eus à travers ta jeunesse, toutes ces choses-là, toutes les personnes qui t'ont aidé, je veux dire, ça passe tout à 100 000 à l'heure, mais ça passe. Ça, c'est des moments que tu n'oublies jamais.
Et est-ce que ça se produit vraiment au moment de la première, puisque tu as le privilège d'en avoir gagné trois? Ouais. Le film de ta vie qui déroule, là, c'est vraiment la sirène à première coupe. Ça,
ouais.
C'est là que ça se passe aussi.
Oui, les autres après, c'était. Tu sais, je veux dire, c'est d'autres moments. Puis moi, ce que j'ai aimé, en tout cas, c'est que j'ai été capable. Tu sais, je veux dire, la première, ça a été tellement vite. Je me rappelle même pas si j'ai tué la coupe.
Il y a un
flou à quelque part sur la patinoire à Calgary. Dans le vestiaire après le match, il y avait tellement de monde. Tu sais, tout le monde te félicite, tout le monde est beau, tout le monde est fin. mais encore une fois, je veux dire, tu te réveilles le lendemain matin et tu dis wow, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait que moi, je me rappelle en 93, après avoir gagné la Coupe Stanley, on a reçu la coupe, on est allé dans la chambre, on a fêté pendant un bout de temps. Puis je me rappelle pas combien c'est de temps, là, une heure et demie, deux heures après la fin du match. Mais à un certain moment donné, j'ai fait sortir tout le monde. Tout le monde qui avait pas un lien proche avec l'équipe. Tout ce qui restait dans la chambre, je pense que c'était les joueurs, les instructeurs, les docteurs, Pierre Gervais, ces choses-là, ceux qui s'occupaient de l'équipement. Puis on a mis, je pense, le We Are the Champion. Puis tout le monde s'est conté des histoires. Puis on a bu une coupe de bière ensemble pendant une demi-heure. Je me rappelle pas non plus. Puis ça, c'était des moments magiques. Puis ça, je l'ai répété quand on a gagné la Coupe Stanley à Buffalo avec les Stars de Dallas. On a fait la même chose après. Puis ça, mais c'est des choses que j'oublierai jamais.
C'est marquant, tu fais juste le raconter, puis je sais pas comment tu fais pour être... Mais t'as toujours été en contrôle de tes émotions, ton cerveau, hein?
Non.
En dedans, t'es-tu derrière... Parce que je pense que t'as la couenne dure, t'as été au centre des conversations souvent, parfois dans la controverse, parfois dans les... Mais dis, veux pas, t'as la couenne dure en dedans, y a-tu moyen de t'ébranler ou t'es imperturbable?
Oui, non, je suis une personne émotive. La beauté, je pense, puis tu me parlerais à ma femme, elle va te le dire, j'ai une mémoire extrêmement courte. Ça fait que j'oublie vite.
C'est bon, ça.
Ouais. Je sais dans quoi je m'en vais, je sais où ce que je m'en vais. Si je veux dire, je suis pas une personne extrêmement organisée. J'aime pas planifier un an d'avance. Ce qui arrive demain, arrive demain.
Quand on a gagné la Coupe Stanley 86, 93, 99 Dallas, on parle des célébrations puis du moment où tu constates que là c'est fait, que t'as gagné. Quand tu revois le film de ces événements-là, est-ce qu'il y a des exploits qui sont survenus pendant ces séries-là? Je pense à commencer à 86. Y a-tu des gars dont tu viens d'un jeu, d'un arrêt, d'un speech du coach? Je sais pas, y a-tu... Ça fait-tu partie du film que tu revois, ça aussi?
Certains. Maintenant qu'on en parle, tout le monde riait de lui, puis j'en ai parlé souvent. Mais quand Jacques Demers est arrivé au début de la saison 93 comme instructeur du Canadien de Montréal, puis le premier meeting qu'on a eu, il nous a dit en plein visage là, qu'on allait changer, qu'on allait choquer le monde du hockey.
We're gonna shock the hockey world.
We're gonna shock the hockey world. Là, tout le monde se regardait, mais on voulait en dire, mais il est fou. Là, on n'a pas les. On savait qu'on avait une bonne équipe, on avait un bon gardien de but, mais on n'était pas dans l'élite de la Ligue nationale. Mais de cette journée-là, aller jusqu'à temps qu'on soulève la Coupe Stanley, genre qu'a jamais dérogé. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on n'a pas pensé après, là, trois jours après, ou un mois après, ou six mois après, mais lorsque tu te retrouves avec la Coupe Stanley dans tes bras, puis là, tu penses à ce qui a été dit au début du mois de septembre, c'était pas mal spécial.
Ça te fait réaliser, puis tu nous dis ça, là, vous êtes là dans la chambre, puis le gars, il vous fait son pitch de vente. Comme coach, ouais. T'as essayé tes pitchs de vente, toi aussi, j'imagine, puis t'es déjà tous vus, puis... Là, ça part, puis les gars, vous ne croyez pas le pitch de vente, là.
Mais on croyait pas. Je veux dire, tu sais, on connaissait pas Jacques Demers. Moi, je le connaissais de nom, mais je connaissais pas la personne. Mais c'est une personne qui est extrêmement attachante. On a appris à le connaître au fil des années, au fil de l'année, puis au fil des mois, au fil des semaines. Puis je veux dire, Jacques avait une façon de faire. Puis, tu sais, je veux dire, tout le monde en parle en bien aujourd'hui, là, parce que c'est une personne qui était, tu sais, non seulement il était positif, il trouvait une façon de tourner tous les négatifs en positifs. Puis si tu avais un problème, il était là pour te supporter. Mais il te faisait bien sentir dans les faits. Moi, j'ai eu des difficultés avec lui de temps en temps. Je suis une personne forte, puis je veux dire, mais il m'a remis dans le bon chemin de la bonne façon. Il savait comment s'y prendre avec les joueurs. Puis ça, c'est en sachant qu'est-ce qui se passait dans sa vie, là, qu'il était pas capable de lire ni écrire. Ça, c'était quelque chose de c'était un choc, je pense, pour tout le monde quand on a appris ça. Là, mais...
À quel moment tu as senti que, finalement, le fait que son acharnement à répéter We're gonna shock the hockey world, on va bouleverser le monde du hockey, puis de maintenir le cap dans son discours à travers les hauts et les bas de la saison régulière, parce qu'il n'y a pas juste eu des hauts dans la saison 1993. Ouais. À quel moment tu as senti qu'il était allé chercher peut-être l'adhésion puis le respect du groupe de joueurs qui le regardait peut-être avec un sourire en coin quand il a dit ça la première fois?
Ben, peut-être plus vers la fin de la saison, je pense. Tu sais, je veux dire, lorsque tu passes à travers une saison, tu sais, on connaît tous la date limite des échanges. On sait normalement qu'il y a beaucoup de stress dans l'entour de l'équipe. On savait qu'on avait une bonne équipe. Ça, j'avais décidé de faire certains changements. On avait des jeunes qui s'étaient greffés. Tu sais, t'essaies de mêcher toutes ces choses-là ensemble le plus rapidement possible. Mais comme je te dis, moi, genre, il était dur dans ce qu'il voulait faire, mais très souple dans la façon de faire les choses. Ça a frappé tout le monde. La façon dont il traitait tout le monde était prêt à se sacrifier, non pas à 100%, mais à 150%.
T'es allé le voir, on a vu, parlant de photos, en frontispice, t'es allé le voir avant les fêtes. Et on comprend de ceux qui nous racontent c'est quoi d'avoir gagné ça, un ultime championnat du monde du sport, que ça crée des liens là indestructibles.
Oui.
C'est quoi, comme ancien capitaine de Jacques Demers, de te retrouver avec lui dans la situation dans laquelle il est actuellement?
Ben, c'est extrêmement difficile. Moi, c'était la deuxième fois là, que je le voyais. Je pense que je l'avais vu au Panthéon des sports, au Mirage.
Oui, oui.
C'était la première fois vraiment que je le voyais, là, mais ça, c'était avant la deuxième incident. J'avais la chance de parler avec Régent Hull pour voir comment est-ce qu'il allait après la deuxième fois, là, mais c'était l'une des premières fois que je le voyais après cet incident-là. Puis, mais c'est extrêmement difficile. C'était le fun de le voir, souriant. On va dire en santé, là. Mais je veux dire, pour quelqu'un, comme j'ai dit tantôt, qui pour la majorité de sa vie n'était pas capable de lire ni écrire, la parole pour lui c'était tout, là. Tu sais, je veux dire, lui c'est compter des histoires, puis parler, puis au monde c'était sa vie. Écoute, il a fait de la radio, il a fait de la politique, il a fait toutes ces choses-là. Alors pour là, présentement, pas être capable de s'exprimer, c'est... Pour lui, ça doit être extrêmement frustrant à l'intérieur. Moi, j'ai été avec quelqu'un d'autre, Pierre Durocher, puis on pouvait se parler ensemble. Il faut quasiment que tu lui fasses dire oui ou non. Là. C'était le fun de le revoir.
Il y a un courant qui passe, je veux dire, à travers le regard, au-delà des mots qu'il ne peut plus prononcer.
Tu le vois là, quand on parlait du Canadien... tu voyais qu'il était déçu de ce qui se passait, puis je suis sûr qu'il aimerait ça donner sa petite opinion pour voir comment changer ces choses-là. Mais il était allumé, c'est le fun de voir de le revoir.
25 ans depuis la Coupe de 1993.
C'est incroyable.
Mais toi, t'as triché, t'es allé à gagner une à Dallas, mon flimeux.
Ouais.
Guy Carbonneau qui est notre invité, on revient pour la conclusion de cet entretien dans un instant.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois, rencontre.
Nous sommes de retour pour la conclusion de cette entrevue avec notre invité aujourd'hui, Guy Carbonneau. Guy, je ne sais pas si vous avez eu des fêtes de retrouvailles pour les Coupes de 86. J'ai entendu dire que tu voulais faire de
non,
quoi?
Ouais.
93 plus?
Ben, soit 86 ou 93, ça fait plusieurs fois qu'on rencontre... que je rencontre des joueurs là, avec lesquels j'ai eu la chance de gagner ces couples cette année-là. Puis, tu sais, lorsqu'on est ensemble, on dit tous la même chose. Là, que, tu sais, depuis 93, là, maintenant, ça fait 25 ans. Puis, on essaie d'organiser quelque chose. On y a pensé après 15 ans, on y a pensé après 20 ans. Là, ça fait 25 ans. À un moment donné, il faudrait essayer de passer à l'acte, puis arrêter de dire on va le faire. Mais c'est quelque chose qui est de la logistique qui est extrêmement difficile. J'aimerais que l'équipe embarque aussi, mais c'est certain que c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Là.
C'est plus difficile qu'on pourrait le penser.
Ben écoute, c'est 20. Si tu regardes les joueurs, c'est 25 à 28 joueurs, tous les instructeurs.
C'est éparpillé partout en Amérique et
exactement,
ailleurs.
Exactement. Alors, c'est sûr et certain que de le faire à un certain moment donné, on est tous conscients que ce ne serait pas tout le monde qui serait capable de participer, mais avoir le plus de gens possible, c'est ça qui est le but.
Puis est-ce que tu sens que le Canadien aimerait ça participer à ça?
Je ne sais pas. J'en ai parlé avec Réjean Houle, j'en ai parlé avec certains gens. C'est quelque chose qui serait intéressant, qui serait intéressé. Mais comme je te dis, là, c'est juste de partir peut-être le bal puis de vraiment s'asseoir ensemble puis d'essayer de le faire. Je veux dire, il y a... Ça, c'est pas juste avec le Canadien, mais je veux dire, c'est pas le fun pour eux autres de faire célébrer le 25e anniversaire quand ça fait 25 ans que t'as pas gagné la Coupe Stanley. Le message est difficile à passer.
Est-ce que tu penses que ça pourrait être comme un peu embarrassant pour l'organisation?
Ben, je le vois pas de même. Puis c'est sûr que nous, les joueurs avec lesquels j'ai gagné en 93, on le voit pas comme ça. Mais on comprend qu'est-ce qui pourrait arriver. Là. Mais ben, pas arriver, parce que je veux dire, il n'y a rien de malice de
non,
monsieur là-dedans.
C'est fait de la bonne
façon.
Une
réunion pour célébrer un événement qui a été extraordinaire. Malheureusement, c'est juste parce que c'est arrivé en 93. Là, mais je veux dire, pour nous autres, ça serait juste vraiment de se revoir. J'ai eu la chance au fil des années, puis à chaque année, parce qu'on est quand même un gros groupe là, qui restait encore au Québec, c'est qu'on a la chance de se voir à certains moments donné, mais il y en a plusieurs là-dedans que j'ai jamais revus, puis certains que j'ai vus seulement qu'une fois, alors...
Ça serait spécial de les voir, là.
Comme je te dis, parce que tu me l'as dit tout à l'heure, j'ai passé quasiment 19 ans dans les Ligues nationales, j'ai rencontré du monde, j'ai joué avec beaucoup de joueurs, mais les trois années où ce que j'ai gagné la Coupe Stanley, c'est ce groupe de joueurs-là est beaucoup plus c'est serré, puis on a plus d'affinités à cause de ça.
Mm-hmm.
C'est vraiment juste à cause de ça. T'apprends à... Tu sais, il y a... Moi, je pense que jouer dans la Ligue nationale, c'est pas facile. Gagner une Coupe Stanley, c'est extrêmement difficile. Il faut que tu ailles à la guerre avec des vrais guerriers, puis tu apprends à connaître ces guerriers-là quand tu te rends jusqu'au bout. Que...
C'est drôle, garde. Tu vois, je regarde pas même mes notes quand je te parle, Guy. Hein? Ça y va tout seul, mais quand même, c'est pas parce que j'en prends pas. Puis je m'étais, parmi les petites questions, je m'étais mis, j'étais en panne d'inspiration, je m'étais dit, tu parles de guerriers. Tu sais, avec tout ce que tu as vécu puis les coupes que tu as gagnées, là, si tu me faisais, là, je te parle pas un alignement de 20 joueurs, là, mais quand tu dis le mot guerrier pour toi puis les gars avec qui tu as gagné, là, c'est ton équipe d'étoiles, des gars, là, que tu irais chercher des gars pris d'une cabane à la guerre du Vietnam, là. C'est qui t'amène avec toi, c'est une glace?
Bah, il y en a certainement plusieurs. Tu sais, je veux dire, je parle Patrick Roy, Kirk Muller, Mike Keane, c'est des gars comme Craig Ludwig, c'est Claude Lemieux. J'en oublie, là, mais Chris Chelios, Bob Gainey, les premières années. Je veux dire, c'est tous des gars qui ont poussé l'enveloppe pour justement permettre à l'équipe de gagner. À Dallas, on avait la même chose. On avait plusieurs joueurs qui des anciens gars, Brian Scudlin. Mike Keane, Craig Ludwig est encore là aussi. Fait que, il y en a une couple qui avait la connexion, là, mais comme je te dis, la majorité de ces joueurs-là avec qui tu te rends jusqu'au bout, là, parce que c'est un épisode de commencer les séries puis de les terminer avec la Coupe Stanley, t'apprends à les connaître beaucoup mieux, t'apprends à savoir quelle sorte de caractère qu'ils ont, puis je veux dire. C'est difficile des fois quand t'arrives dans les séries éliminatoires puis ton grand chum il est sur la plage à Hawaï puis t'envoies une photo puis toi t'as deux pieds dans la glace là, puis trois quatre sacs de glace sur le bras puis tu joues encore au hockey, ça prend beaucoup de caractère.
Puis quand tu sais que quelqu'un est allé au-delà quasiment de ses capacités,
qu'il faut que tu le fasses, t'as pas le choix, c'est ça qui est la beauté, c'est ça qui est difficile. Mais c'est ça qui est la beauté, c'est t'as pas le choix, faut que t'ailles au-delà de ta capacité.
Et ça amène un respect qui est inoubliable. Ouais. C'est ça qui fâche la connexion, au-delà des mots, j'imagine, bien souvent. Et c'est tellement intéressant. Je le savais que j'aurais passé d'une heure. Je le savais.
On l'a fait une autre fois.
Mais c'est tellement... Il y a tellement de même d'épisodes de ta carrière que j'ai même pas eu le temps d'effleurer encore. Parce que, bon, t'as eu quand même... T'as déjà remercié, Serge, de t'avoir finalement expédié à Saint-Louis pour aboutir à Dallas, pour gagner une autre coupe. As-tu déjà vu ça comme une bénédiction ou t'aurais aimé la gagner à troisième à Montréal?
Ben, j'aurais aimé mieux la gagner à Montréal, c'est sûr et certain. Moi, j'ai commencé ma carrière avec le Canadien. Puis comme je te dis, ça faisait 12 ans que j'étais ici, j'étais bien ici, je demeure encore ici. Ça fait que, à quelque part, il y a quelque chose qui m'a accroché. Je pense pas, à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment qui se passe dans l'entour de l'équipe, qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent se faire échanger. Alors pour moi, c'était vraiment de demeurer ici à l'équipe puis prouver qu'on était capable de le gagner encore une autre fois. Saint-Louis, c'était vite parce que il y avait l'année du lockout. On avait seulement, comme on a commencé à jouer au mois de janvier. Ça avait été correct là, avec mon ami Mike Keenan. Mais lorsque au mois de septembre de l'année d'après, c'est Bob Bassan s'était cassé la jambe, je pense, avec les Stars de Dallas. Puis Bob était à la recherche d'un centre défensif. Puis lorsqu'il a appelé. C'est Mike Keenan qui est venu me voir et dit « J'ai la chance de t'envoyer à Dallas, si tu veux y aller? » J'ai dit « Oui, tout de suite. »
Dans les réunions, si jamais tu fais la réunion, puis c'est toi, c'est peut-être... Parce que tu sais quoi, ça me faisait penser à ça, on continuait de jaser juste en terminant, Guy. C'est qu'il y a bien des équipes qui ont eu des passés glorieux, qui ont de la misère à gérer le passé glorieux. On a reproché aux Canadiens de trop utiliser les légendes d'antan pour vendre le présent. Fait que des fois, Edmonton ont tassé les photos à un moment donné, tout ça.
Une grosse erreur.
J'ai remarqué qu'il y a bien des photos qui sont plus les mêmes, d'ailleurs, au Centre Bell, dans les corridors. Mais
il y a beaucoup de... C'est normal, je veux dire, les photos des joueurs actifs, ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense que, écoute, il y a l'anneau là, qui est à l'entour du Centre Bell, en haut, qui donne une place spéciale aux joueurs qui ont fait extrêmement... qui ont aidé le Canadien à gagner les Coupes Stanley. Et que, non, je pense que...
Il y a une question qui me brûle, Guy, en terminant. Et toi, elle doit te brûler aussi, parce que je comprends qu'à un moment donné, on n'a pas toutes les réponses. Et tu me dis que l'épisode, c'est la seule fois dans ta vie que tu as perdu un emploi, là, c'est perdre ta job de coach. Puis je sais pas si en appelant Bob Gainey pour les retrouvailles du 25e de la Coupe de... Ah non, il était pas là en 93, lui. Mais si tu t'inclus de 86, si tu fais un party de 1986 puis t'avais une couple de minutes dans un coin, c'est quoi la question que tu n'as jamais demandé?
Non, il y a certainement une raison pour laquelle il l'a fait. Il n'y en a jamais des bonnes. Ils le font pour une raison. Puis ça, je l'ai compris au fil des années. C'est juste que...
Il n'y a pas de bonne réponse.
Tu sais, je veux dire, avec la relation que j'avais, j'aurais aimé mieux qu'ils me disent la vérité en partant. Mm-hmm. C'est tout.
C'est tout, hein.
Peu importe c'était quoi la vérité.
As-tu regardé le bye-bye?
Oui. Écoutez-le. Jusqu'au bout. Oui? Jusqu'au bout.
Comment t'as trouvé le sketch sur
l'action? J'ai trouvé ça bon. Ben, moi, premièrement, j'ai juste dit au monde, il faut dire... Premièrement, c'est le fun parce qu'ils ont pensé à faire... de passer dans la chambre dans le bye-bye. Tu sais, faut t'aies fait quelque chose de bien ou de mal pour passer au bye-bye. Moi, je pense qu'on a fait quelque chose de bien, même si on a ri, puis on a eu, tu sais, je veux dire, c'est un sketch d'humour, premièrement.
As-tu trouvé ça drôle?
Oui, j'ai trouvé ça drôle.
Est-ce que tout le monde a trouvé ça drôle autour de toi?
Non, pas tous. Mais je comprends. Moi, je comprends. Écoute, comme je dis, je suis une personne qui est facile d'accès si tu viens me voir. Je suis pas la personne qui va voir tout le monde. Alors, je comprends que le visage que j'avais au bye-bye, ça passe comme ça, mais plus souvent qu'autrement, je suis souriant, ça fait que je m'en fais pas trop.
Alors, je vais vous dire, mesdames, messieurs, qui êtes à l'écoute, c'est avec un beau, gros sourire que Guy complète cette entrevue-là, puis vous vous êtes rendu compte, tout le monde, puis c'était le but de l'entrevue que je n'étais pas trop amené dans les questions d'actualité, Marc Bergevin, tout ça, l'équipe, parce que c'est de toi que je veux entendre parler puis de ce que tu avais vécu, puis... On aura bien une autre occasion pour parler de l'actualité. Guy,
merci
beaucoup.
C'est moi qui t'en remercie, Mario.
C'était un grand plaisir. Guy Carbonneau qui était notre invité. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis déjà à la semaine prochaine. Puis entre-temps, n'oubliez pas les amateurs de sport, dès lundi 18h30.